êtes à Paris, vous êtes donc en compagnie de François Ballarin. Bonsoir François.
Bonsoir Marion, bonsoir et bienvenue à tous. C'est RFI Soir. Il y a 11 jours, il dormait encore en prison au lendemain de la présidentielle tant attendue par les Sénégalais. Il est en passe de devenir le nouveau président du Sénégal. Le dépouillement est toujours en cours, mais Bassirou Diomaye Faye a reçu les félicitations du président sortant Macky Sall, celles de son principal concurrent Amadou Ba, candidat du parti au pouvoir, qui concède donc sa défaite. Invité analyse récite cette journée à partir de 18h15 de Dakar. Édition spéciale sur RFI et puis nous reviendrons aussi dans RFI Soir sur l'autre grande actualité de cet après-midi. Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté sa première résolution pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. On vous en parle. Avant tout cela, le débat du jour.
Le débat du jour. François Ballarin.
Les ministres européens de l'environnement réunis à Bruxelles ce lundi, réunion alors que le pacte vert européen subit un coup d'arrêt depuis quelques mois, sous pression du monde agricole, des industries soumises à la concurrence chinoise et américaine, et alors que l'extrême droite, résolument opposée à la transition écologique, a le vent en poupe à l'approche des européennes, Bruxelles semble revoir ses ambitions climatiques à la baisse et l'objectif du zéro carbone d'ici 2050 semble s'éloigner peu à peu. L'Europe est-elle en train de renoncer à ses ambitions climatiques ? C'est le débat du jour, bienvenue à tous sur RFI. Et avec nous en studio ce soir, bonsoir Sébastien Treyer.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Avec nous par téléphone, Anne Sander, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé du groupe PPE, membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement Durable. Bonsoir Bertrand Badré.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Blue Like an Orange Sustainable Capital, un fonds d'investissement responsable. Vous êtes également ancien directeur de la Banque mondiale et vous êtes signataire d'une tribune dans Le Monde pour appeler à ne pas se résigner, je cite, au lent détricotage de l'ambition environnementale européenne. Anne Sander, vous êtes donc eurodéputée du groupe PPE, parti conservateur, premier groupe parlementaire européen. Vous êtes d'accord avec ce terme de lent détricotage ?
Écoutez, moi, je pense qu'il est temps, effectivement, de donner un coup d'arrêt aujourd'hui au Green Deal sur la manière dont il a été conçu. Le Green Deal, en 2019, c'était un objectif, une ambition environnementale qu'on était très nombreux à partager. Il y a eu le Covid ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et malgré ces événements qui ont complètement perturbé notre manière de voir le monde et qui a changé notre manière de produire, eh bien, au niveau européen, le Green Deal s'est poursuivi comme si de rien n'était autour de nous, alors que le monde avait profondément changé. Et le Green Deal, eh bien, a été décliné avec un certain nombre de législations, les unes plus contraignantes que les autres, très souvent hors sol, et en analysant uniquement le volet environnemental, mais sans se préoccuper de besoins de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique aussi. Et ça, je crois effectivement que depuis quelques mois maintenant, il y a une vraie prise de conscience au niveau européen. On a beaucoup parlé de l'urgence environnementale, mais il y a aussi une urgence à agir au niveau économique et au niveau de la sécurité alimentaire. Donc si effectivement on peut donner un coup de frein, un coup d'arrêt même au Green Deal tel qu'il a été conçu depuis maintenant 5 ans, alors je dis oui, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'ambition environnementale, mais il faut agir sur l'environnement de manière différente, en misant davantage sur l'innovation, plutôt qu'en encourageant cette idéologie de la décroissance, parce que derrière le Green Deal tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est bien ça.
On va y revenir dans quelques instants. Sébastien Treyer, vous partagez le constat d'Anne Sander, il faut un autre Green Deal, qu'il s'adapte à un contexte qui a changé ?
La première chose que je voudrais dire, c'est que en 2019, le discours de Mme von der Leyen qui installe le Green Deal, c'est un discours qui dit le Green Deal, c'est une stratégie économique pour le continent. On a besoin de se positionner dans la mondialisation par de la montée en gamme économique et on va le faire autour de l'environnement. On veut être le premier continent, la première économie mondiale à faire la transition vers le pro-climat et le pro-biodiversité parce que c'est ça l'avenir, c'est ça la modernité. Et ça entraîne derrière cette déclaration, Mme von der Leyen, tout un tas de déclarations sur l'ambition d'être neutre en carbone en 2050, 2060 ou 2070. Des grandes économies innovantes de la planète, sauf les États-Unis à l'époque de Trump, mais la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et donc, depuis le début, c'est quand même une stratégie économique. Que la méthode ne soit pas idéale, je veux bien l'entendre, mais qu'en tout cas, dès le début, c'était cette stratégie économique. Et il y a plein d'acteurs économiques qui ont commencé à investir dans ce pivot stratégique. Et pour moi, on ne s'arrête pas au milieu du guet dans un pivot stratégique. Et je prends pour exemple une déclaration d'Anvers qui a été faite par un certain nombre d'industriels qui appelle à un nouveau deal industriel européen. Beaucoup d'entreprises françaises n'ont pas signé parce que dans cette déclaration d'Anvers, il y a des critiques sur la méthode. Mais on ne réaffirme pas l'ambition de climatique telle qu'elle était prévue. Et donc je pense qu'il est important de bien qualifier le changement de méthode dont on parle, ne pas quitter l'ambition climatique telle qu'elle était affirmée, et voir comment on peut travailler de manière la plus précise possible avec les acteurs économiques pour bien dire qu'il s'agit d'une politique industrielle. Et depuis le début, c'est ce que la Commission européenne annonce.
Bertrand Badré, votre avis, quel regard vous portez sur la dynamique actuelle du Pacte vert européen ?
Je suis un peu comme Anne Sander et Sébastien Treyer, un peu perturbé. C'est-à-dire que d'un côté, on a une ambition qui a été clairement affirmée et réaffirmée depuis quelques années, qui n'est pas juste un cap environnemental, mais qui est un cap de stratégie économique pour le développement de l'Europe. Et ça a été dit et redit. Et en même temps, on voit bien qu'on s'est heurté à un certain nombre de choses qui ont été rappelées par Anne et Sébastien à l'instant. À la fois le changement de contexte, effectivement, ce n'est pas anodin le Covid, ce n'est pas anodin le conflit en Ukraine, pour ne prendre que deux des sujets récents. On voit bien aussi qu'on a une petite question de financement, que les sujets qu'on a mis sur la table sont coûteux, qu'en face de ça, les Américains ont mis en place une dynamique un peu différente, les Chinois aussi. Donc on se retrouve avec un environnement qui a évolué, des financements qu'on a du mal à mobiliser, et puis une question de justice sociale et d'embarquer toutes les parties. Et donc, moi, je serais plutôt, comme le dit Sébastien, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je suis très mal à l'aise quand on dit qu'il faut porter un coup au Green Deal, parce que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre et ils disent « c'est fini ». Comme l'avait dit un président de la République il y a une quinzaine d'années, vous comprenez, l'environnement, moi, ras-le-bol. Mais il faut faire très attention parce que c'est ce qui reste. Comme le dit Sébastien, il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a un discours qui passe. Il y a toute une série de choses qui évoluent et on ne peut pas passer de sa vie avec des coups de barre d'un côté ou de l'autre. Donc il faut trouver comment ajuster notre ambition, il ne faut pas être aveugle. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, on l'a tous dit, on en est tous témoins, mais il faut trouver le moyen de garder le cap en étant réaliste dans le développement. Mais je suis très, très mal à l'aise quand on dit qu'il faut arrêter, qu'il faut mettre le pied sur le frein, etc. Et puis, j'ai un autre sujet qui pour moi, est aussi essentiel. Et il ne faut pas que l'Europe se transforme en forteresse normative. C'est un sujet, je fais très attention à ce que ça soit dans la tribune que vous avez mentionné tout à l'heure. L'Europe, elle doit s'engager avec les pays du Sud. Aujourd'hui, on est en train de les antagoniser. Évidemment qu'il y a des sujets avec l'accord commercial Mercosur, mais on ne peut pas juste dire c'est blanc ou c'est noir. On ne peut pas juste dire à la moitié de la planète, écoutez, nous on va dans cette direction, et ben, si vous nous aimez, vous nous suivez, si vous ne nous aimez pas, vous ne nous suivez pas. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus inclusif dans notre méthode de travail. Donc on se retrouve, encore une fois, avec une ambition centrale, et je pense qu'elle doit demeurer, et avec des ajustements qui ne sont pas complètement à la marge sur la méthode. Et en tout cas, c'est le message qu'on a voulu faire passer.
Comment on levait les freins qu'on évoquait à la transition écologique ? Sébastien Treyer, je me tourne vers vous. Des freins socio-économiques, il y a le contexte politique, la concurrence internationale. Comment, concrètement, on peut lever ces freins ?
Alors la première chose, je pense que c'est de se dire qu'effectivement, du côté des États-Unis et de la Chine, il y a des aides à l'industrie qui sont absolument massives et qui attirent pas mal des investisseurs, même des entreprises qui auraient leur siège en Europe, pour investir plutôt aux États-Unis, par exemple. Et donc, il faut vraiment réfléchir quelle est notre capacité d'intervention. Qu'est-ce que c'est qu'une politique industrielle européenne ? Comme l'a dit Bertrand Badré, on n'a pas la même planche à billets que les États-Unis parce que notre monnaie n'est pas la monnaie mondiale. Et donc, on ne peut pas... enfin, l'idée de soutenir budgétairement les industries n'est pas si facile à mettre en œuvre. Et il faut qu'on trouve la manière de faire en Europe qui convainque à la fois des Danois et des Français qui n'ont pas la même vision de ce que c'est qu'une politique d'aide à l'industrie plus ou moins centrée sur l'innovation et les PME d'un côté, plus ou moins centrée sur des grands champions industriels de l'autre, pour caricaturer, parce que la politique industrielle française elle-même, elle se redéfinit en permanence. Mais je voudrais souligner qu'il y a, et ça, ça va être un enjeu absolument central dans les négociations de la prochaine Commission européenne. Pour l'instant, les seuls pays européens qui sont capables de faire des aides d'État à l'industrie, c'est la France et l'Allemagne. Il y a deux ans, la moitié des aides d'État à l'industrie étaient allemandes, un quart était français, et les 25% étaient pour les 25 autres États membres. Donc il va falloir trouver des moyens de faire que cette politique industrielle, elle ne soit pas en contradiction avec une politique de cohésion sur le marché européen. Et je crois que s'il y a bien un secteur qui est illustratif de ça, c'est le secteur automobile. Dans le secteur automobile, à part des industriels allemands qui ont l'impression que leurs grosses voitures sont celles qui sont en concurrence directe avec les grosses voitures électriques chinoises et américaines, on a tout un tas de constructeurs européens qui voient très bien quelle peut être leur place sur le marché de la voiture électrique, notamment avec des petits modèles qui sont socialement aussi plus accessibles pour un certain nombre de nos concitoyens. La question, c'est qu'une partie des industriels de l'automobile qui s'en sortent le mieux sont en Tchéquie, en Pologne et en Espagne, et pas en France et en Allemagne. Comment est-ce qu'on s'assure que les pays les plus riches, on leur demande de réduire leurs aides d'État, mais qu'en même temps, ce n'est pas non plus eux qui vont être exclus des emplois industriels? C'est ça le genre de conversation, à mon avis, qu'on doit avoir en ce moment. Comment est-ce qu'on conduit une politique industrielle juste à l'échelle de l'Union européenne et qui permette à l'industrie automobile de finir ce pivot stratégique qu'elle a entamé?
Et comment faire, comment effectuer une transition vers une industrie verte? Anne Sander, il faut des finances, il faut de l'argent. L'effort financier, il viendra de la sphère privée, on l'imagine, mais pas seulement. Quel rôle peut jouer l'investissement public européen dans la transition écologique?
C'est bien là la difficulté, c'est l'accompagnement des transitions. Alors, on a bien un fonds qui est dédié aux transitions, on a bien des programmes de recherche, et je pense que là-dessus, il faut qu'on mise davantage encore sur la recherche et sur l'innovation. Mais on voit bien aussi les limites du système. Nous allons bientôt redémarrer les discussions sur le prochain cadre financier, sur le budget de l'Union européenne, et on voit bien que les États membres sont particulièrement réticents dans leur contribution au budget européen. En même temps, moi je vois aussi la difficulté, on ne peut pas aujourd'hui taxer davantage les entreprises. Donc c'est vrai que c'est une équation qui est difficile. Alors moi je pense qu'il faut qu'on fasse peut-être aussi, qu'on se fixe des objectifs évidemment, parce que sans objectifs on ne va pas y arriver, mais peut-être des objectifs qui permettent de se donner un peu plus de latitude, permettre à nos industriels de s'adapter. Dans tous les cas, le Green Deal, il est engagé. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Enfin, nous partageons tous cette ambition environnementale. On y croit tous et les industriels sont lancés. Alors, mais aujourd'hui, je crois que ça va trop vite. Le patron d'ailleurs de Renault disait il y a quelques temps encore devant le Sénat qui soulevait aussi, sur la fin des véhicules thermiques 2035. Nous, on ne l'a pas voté parce que ça va trop vite. Et comme nous ne serons pas prêts, parce qu'on n'a pas les moyens d'accompagner suffisamment, derrière, le risque, c'est de favoriser l'industrie chinoise ou venant d'autres parties du monde. Donc, il y a ce souci de cohérence aussi dont nous devons tenir compte. Oui, pour nous fixer des objectifs, mais ça doit être des objectifs qu'on pourra atteindre. Et en attendant, il ne faut pas favoriser nos concurrents et s'affaiblir en interne. Parce que de nombreux pans de notre économie, de notre industrie, sont déjà partis s'installer dans d'autres parties du monde.
Et notamment aux États-Unis.
Donc là, il faut qu'on soit aux États-Unis ou en Asie.
Ouais. Bertrand Badré, est-ce que ne pas prendre le wagon, le train du Green Deal, est-ce que c'est pas prendre le risque d'un déclassement technologique, voire in fine géopolitique?
La réalité, c'est que Green Deal ou pas Green Deal, le risque existait. On ne va pas se raconter d'histoire. On a quand même une question qui se pose depuis un certain nombre d'années sur la place de l'Europe dans le monde, que ce soit sur le plan économique ou géopolitique. Ça s'est accéléré après la crise financière. Moi, j'avoue que j'étais à Washington au moment où on a créé les BRICS, la Banque des Chinois, etc. Enfin, il y a toute une série de signaux qui montrent qu'on n'est plus dans un monde piloté par le G7, donc les pays, l'Europe, les États-Unis, les Japon, mais un monde qui devient G20 est beaucoup plus complexe. Et donc, de toute façon, Green Deal, dans cette question.
Oui.
La question que pose le Green Deal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Green Deal, d'une certaine manière, c'était une réponse de l'ambition européenne face à ce rebrassage des cartes. Et cette ambition qu'il ne faut pas perdre, je crois qu'on dit tous avec des nuances différentes un peu la même chose. La question fondamentale, au fond, que le Green Deal a posée, c'est que quand on s'est mis d'accord il y a une dizaine d'années, donc au moment des accords de Paris, notamment sur la COP21, sur les engagements climatiques, on a vendu ça aux opinions publiques comme une transition. Et ce mot était à la fois sympathique et trompeur. On a dit, en fait, c'est limiter des émissions de carbone en les faisant baisser de 1 ou 2% par an, réallouer notre épargne de 1 ou 2% par an. Enfin, en gros, c'est un peu comme quand on commence un régime. On dit, on va prendre 1 ou 2% tous les jours et vous allez voir ce que vous allez voir. À la fin, on va y arriver. Et donc, on a dit aux gens, on va faire des efforts de l'ordre de 1 ou 2%. Personne n'a peur d'un effort d'un à 2% pendant 30 ans. Et dans 30 ans, on va se réveiller, ça sera fait. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas marché. Et donc, qu'il fallait bien, pour être à la hauteur des engagements pris, non pas mettre en place une transition, mais une transformation. Transformation de nos économies, de nos modes de production, de consommation, de nos modes de financement. Et que cette transformation, comme toute transformation, il y a des gagnants, il y a des perdants, c'est compliqué, il y a des paris, des hésitations. Enfin, on voit que c'est beaucoup plus dur. Et d'une certaine manière, le Green Deal a figé cette transformation en posant des principes, j'allais dire très, j'aime pas ce mot, mais technocratiques, en disant il faut qu'on soit à moins X% à telle date, moins Y%. En gros, il faut que ça rentre dans le tableur. Et à la fois, c'était souhaitable, et en même temps, évidemment, que ça n'est pas achetable par les populations, parce que le réel ne se plie pas toujours au tableur. Et donc, on est dans cette tension, où on voit bien que cette transformation, elle est indispensable, mais qu'on ne peut pas la faire juste par des tableaux de chiffres, et qu'il faut rentrer dans le dur de qui paye, qui gagne, qui paye, comment ça marche, comment on explique aux gens, et comment on positionne l'Europe dans le reste du monde. Toutes ces questions, elles sont parfaitement valides, et d'une certaine manière, on avait un discours qui était peut-être jouable en 2019, mais qu'on doit adapter. Donc c'est ça, bon, la grande leçon, de ne pas perdre le cap, mais comprendre que c'est une transformation. Et une transformation, bah, c'est quelque chose de très vertigineux.
Justement, Sébastien Treillière, ce terme de transformation plutôt que de transition, vous êtes d'accord avec ça? C'est plus profond?
En fait, je m'apprêtais à utiliser un mot qui fait encore plus peur que ça, qui est une question de reconversion industrielle. Moi, je viens de régions où on a abandonné les mines de potasse en Alsace et on a reconverti l'industrie sidérurgique en Lorraine. Donc, c'est des impacts sociaux, politiques et économiques dans des territoires qui durent pendant des décennies. Je crois que Paul Magnette, l'ancien Premier ministre wallon, disait que dans sa Wallonie, c'est des impacts qui durent sur le siècle. C'est ça la durée d'impact. Et en l'occurrence, ce qu'on est en train d'essayer de faire, pas uniquement pour la planète, mais aussi pour retrouver une viabilité économique dans les échanges mondiaux, c'est des formes de reconversion industrielle. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il faut le faire dans plusieurs secteurs en parallèle, en même temps, et dans beaucoup de nos territoires. Et donc ça, moi, j'hésite en général à le dire dans le débat public, et je suis en train de le faire aujourd'hui, parce que la reconversion, ça fait peur, mais c'est des éléments de cette nature-là.
Et c'est une approche systémique à avoir ?
Et c'est une approche systémique, et ça parle autant des compétences des populations, des clusters industriels dans les territoires, que des grandes politiques qui se discutent à Bruxelles ou à Paris. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment important. On a, à mon avis, trop peu réussi à faire comprendre que le Green Deal et cette stratégie économique nouvelle qui était vraiment indiquée comme telle par Mme von der Leyen dès le début, elle supposait que les PME dans les territoires s'en saisissent et le comprennent, parce que les reconversions dont on parle, c'est aussi derrière, pour prendre toujours la filière automobile, tous les sous-traitants de l'automobile. Et donc, comment est-ce que tout ça peut être accompagné? Comment est-ce qu'on retrouve des gisements d'emploi? C'est ça qui me paraît extrêmement important. Un dernier point que je voulais ajouter, c'est que pour moi, le Covid et la guerre en Ukraine ont quand même beaucoup mis l'accent sur le fait qu'on avait besoin d'autonomie stratégique et de sécurité d'approvisionnement.
C'est ça aurait pu nous booster.
Et en l'occurrence, dans beaucoup de cas, le plan de relance a été quand même jugé après le Covid et un certain nombre de programmes comme France 2030, en pleine conscience, avec un certain nombre de fileurs économiques. On a dit, oui, il y a des objectifs de sobriété dans l'usage des ressources, pour parler des ressources minérales, qui sont extrêmement importants parce qu'on est un continent pauvre en ressources. Et donc, oui, faisons la transition vers l'électrique parce qu'en fait, dépendre du pétrole et du gaz, c'est encore plus... Enfin, c'est des quantités énormes. Mais ensuite, si on passe à l'électrique, il faut s'assurer qu'on soit en plus sobre dans l'utilisation de ces éléments-là. Donc il y a beaucoup d'éléments dans le package du Green Deal qui font sens en termes de sécurité économique et stratégique et pas uniquement en matière d'environnement. Mais derrière tout ça, il faut qu'on comprenne les transformations sociales qui sont très importantes. Et je pense qu'effectivement, il s'agit d'accompagnement non seulement, je citais tout à l'heure des subventions aux grandes industries et je pense que ce qui est important, comme l'ont dit les deux autres intervenants, c'est de penser la dimension systémique que vous soulignez aussi sur l'accompagnement, par exemple, des compétences dans les territoires. Et puis, il y a aussi l'accompagnement des usagers et des consommateurs. Et ça, c'est probablement des éléments qu'il va falloir mettre sur le métier aussi.
Les usagers, les consommateurs, qui sont aussi des électeurs qui se retrouveront début juin pour les européennes. Ces transformations sociales que vous évoquez, elles inquiètent bon nombre des électeurs. L'extrême droite, d'ailleurs, l'a bien compris, est résolument opposée à la transition écologique. L'extrême droite européenne qui a le vent en poupe à l'approche de ces élections. Anne Sander, c'est l'avenir de la transition écologique européenne qui se joue avec le scrutin du mois de juin ?
Ça, pour le coup, je ne le crois pas, parce que je ne crois pas que l'extrême droite puisse être une solution pour qui que ce soit, ni pour le consommateur, ni pour le citoyen, ni pour le monde de l'entreprise. Si on peut partager un constat de difficulté pour nos concitoyens face à un certain nombre de mesures qui sont proposées dans le cadre du Green Deal, l'extrême droite n'a jamais été là pour proposer des solutions et n'est absolument pas constructive. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie préoccupation auprès de nos concitoyens face aux différentes mesures qui sont prises et qui se déclinent au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau le plus local. Moi, j'habite à quelques kilomètres de Strasbourg, dans l'Eurométropole. Eh bien, aujourd'hui, l'Eurométropole est en train de mettre en place des zones à faible émission. Eh bien, voyez, ça aussi, on dit que c'est dans le cadre du Green Deal, mais ça pose un vrai problème pour le citoyen qui doit changer sa voiture, qui doit aller travailler à Strasbourg. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas suffisamment de transport en commun, malgré tous les efforts qui sont faits, en particulier par la région, avec le train. Et ça, c'est un exemple, mais des exemples de ce type-là, il y en a beaucoup.
Donc, mais Anne Sander, en 2019, oui, on avait vu, oui, ces marches pour le climat qui avait fait entrer des dizaines de députés verts au Parlement européen, ce qui avait boosté ce Green Deal, porté un petit peu là aujourd'hui. Est-ce qu'on ne serait pas dans la tendance inverse avec cette extrême droite qui, si elle rentrait sans avoir de majorité au Parlement européen, en tout cas pourrait peser pour freiner ce Green Deal? Ça vous fait pas peur?
Écoutez, l'extrême droite française, en tout cas, a déjà gagné les élections européennes en 2014, en 2019, et finalement, rien n'a changé. Donc, je dirais que ce n'est pas ça qui va arrêter ou qui va changer le Green Deal. Par contre, il faut absolument qu'on tienne compte des préoccupations de ses concitoyens. Le Green Deal, vous l'avez, et puis ça a bien été dit, au départ, on s'est dit, eh bien, le Green Deal, ça va aussi être des opportunités économiques, ça va être de l'emploi.
Mais pas forcément tout de suite, ça prend du temps.
Non, mais je veux bien. Mais vous ne pouvez pas faire contre les gens. C'est pour ça qu'il faut se donner des gens. Vous ne pouvez pas dire simplement aux gens, eh bien, parce qu'on va rentrer dans une période de transition, de transformation, de révolution, eh bien, pendant un certain laps de temps, vous allez perdre votre emploi parce qu'on va fermer les industries qui sont trop polluantes. Il faut adapter cette transition. On ne peut pas faire contre les gens. Il ne faut pas laisser des gens sur le carreau. Il faut les emmener parce que sinon, on se retrouve
faire
dans
de
une
la pédagogie.
Situation... de gilets jaunes ou de vote extrême. Au-delà de la pédagogie, ce n'est pas uniquement une question de pédagogie ou de communication. Quelqu'un qui perd son emploi, quelqu'un qui n'a plus les compétences pour répondre aux besoins de cette industrie plus verte, vous ne pouvez pas lui expliquer qu'il va falloir qu'il attende un peu et puis qu'il va, ça va prendre du temps et puis qu'un jour, il va retrouver un emploi dans un autre domaine. Il faut aller vite dans l'accompagnement des gens. Et si on n'est pas prêt pour les transitions, il faut se donner un peu de temps supplémentaire. Regardez ce que le Parlement a voté, on parlait du volet industriel, mais il y a aussi le volet qui est lié aux particuliers sur la rénovation énergétique des bâtiments. Là aussi, il faut se donner du temps. Le citoyen, le consommateur n'a pas forcément le temps, n'a pas forcément les moyens, d'autant plus que nous sommes dans un contexte vraiment inflationniste, eh bien, d'engager des moyens importants pour rénover des bâtiments. Ça prend du temps, il faut investir.
Il nous reste assez peu de temps, justement, et je voulais vous parler de temps, Sébastien Treillière. Est-ce qu'on a le temps au niveau de la transition écologique, là ?
Alors en fait, on est vraiment coincé hein, dans un étau entre ce que nous racontent les scientifiques, ce que nous disent, hein, c'est pas qu'ils racontent, ce que nous disent avec beaucoup d'exactitude les scientifiques du climat au GIEC ou au IPBES sur la biodiversité, qui disent qu'en fait, il faut accélérer la transition. Et pour moi, ce que je trouve très important, pour pas être complètement en contradiction avec ce que dit Anne Sander, c'est qu'en fait, il faut donner aux gens les moyens de changer. Pour l'instant, on a, comme le rappelait Bertrand Badré, des changements qui sont incrémentaux, 1%, 2% par an, etc. Il faut qu'on soit dans une logique de transformation, mais pour se transformer, il faut donner aux gens, aux particuliers par exemple, les moyens de changer de véhicule s'ils doivent faire de l'électrique. Il y a eu des dispositifs comme le lease social qui ont extrêmement bien marché en France. Il y a eu une demande énorme et donc il y a des dispositifs qu'on pourrait concevoir de telle manière que ça aide les gens à changer. Et une fois qu'ils ont réussi à changer, c'est à la fois une question de temps, mais c'est surtout une question de l'ampleur des changements qu'on leur demande. Si on les accompagne dans des changements d'ampleur, ensuite on peut aller relativement vite. Mais pour l'instant, on n'a pas pris le pli de cette transformation suffisamment rapide.
Bertrand Badré, on a le sentiment que cette transition écologique, ça va coûter très cher, très vite, et pour des effets qui vont se mesurer même pas à moyen, mais à long terme, comment ça peut être viable économiquement ?
D'abord, on en est où on en est, et c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé la dizaine ou quinzaine d'années de taux zéro ou négatif pour aller plus vite, parce qu'effectivement, tout ce dont on parle est plus compliqué à vendre quand on est dans une phase d'inflation et de taux d'intérêt plus élevé. Donc tout apparaît encore plus coûteux aujourd'hui, et ça contribue à ce que disait Anne Sander sur le coût pour tout le monde. Donc on cumule un peu les handicaps, mais je crois que surtout il faut avoir la reconnaissance que, comme je dis, dans une transformation, il y a des gens qui gagnent, en général ceux-là ne clament pas sur les toits, et des gens qui perdent. Et c'est en étant honnête dans cette reconnaissance des gens qui gagnent et des gens qui perdent que, effectivement, et c'est pas que de la pédagogie, la pédagogie c'est important, on l'a pas forcément assez bien fait tous collectivement, mais c'est aussi effectivement compenser une partie des pertes. C'était un des gros sujets, pas le seul avec les gilets jaunes, il y en a d'autres, et je pense que c'est extrêmement important d'avoir un discours d'honnêteté en disant c'est une ambition qu'on partage, c'est une stratégie pour l'Europe, et je pense qu'effectivement l'Europe a une capacité à créer du leadership sur ces sujets-là. On est plutôt en avance, pas sur tous les sujets. On sait que les panneaux solaires sont plutôt faits en Chine que chez nous, par exemple. Mais c'est vraiment pour moi une stratégie de je dirais, comme le disait Sébastien au début, une stratégie économique qui a été choisie. Je pense qu'elle continue à faire sens. Il faut avoir l'intelligence de l'adapter en la contextualisant. Ce n'est pas quelque chose qui se décide depuis un endroit. On dit c'est tout le monde pareil. C'est bien ça le message qui est envoyé partout. On n'a pas les mêmes sujets, les mêmes contraintes, les mêmes coûts, les mêmes sensibilités dans toutes les régions. Il faut avoir l'intelligence de contextualiser. Et je reviens sur ce qui m'est très cher, sur votre antenne en particulier. Il ne faut pas qu'on fasse ça tout seul. Il faut qu'on travaille avec l'Afrique, il faut qu'on travaille avec l'Amérique latine, il faut qu'on travaille avec l'Asie du Sud. Le développement durable de l'Europe, ça ne se fera pas tout seul. Le défi le plus important pour nous, c'est que l'Afrique ait aussi une trajectoire de développement durable.
Anne Sander,
s'il ne se passe rien de l'autre côté de la Méditerranée, c'est comme si on n'avait rien fait.
Anne Sander, le mot de la fin de ce débat, il touche à sa fin. On comprend qu'on est dans une pause ou en tout cas une refonte, une réflexion autour de ce que doit être le pacte vert dans les années qui viennent. Combien de temps la pause dans cette mise en place peut-elle durer sans mettre en péril l'objectif de neutralité carbone de 2050?
écoutez, on verra quelle forme prendra et le nouveau Parlement et la nouvelle Commission européenne et quelles propositions nous seront faites. Moi, je pense qu'il faut définitivement qu'on ait une vision globale alliant environnement et économie. Et je pense qu'il faut qu'on mise davantage sur la recherche et sur l'innovation. C'est absolument essentiel. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de produire, et c'est quand même l'idéologie qui a été portée par le Green Deal, en tout cas sur son volet agricole. Donc, au contraire, produisons, parce que ça crée là aussi de la croissance et de l'emploi, y compris des emplois verts, mais produisons mieux, de manière plus ambitieuse.
Merci.
En misant sur l'innovation.
Merci Anne Sander d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Sébastien Treillère. Merci Bertrand Badré d'avoir participé à ce débat. Restez bien avec nous sur RFI, un nouveau journal dans un instant sur la Radio du Monde.